France Musique. Disque de légende, Lionel Esparza, France Musique.
Notre légende aujourd'hui, c'est le Brahms de Glenn Gould qu'on va entendre au cœur du sujet dans le premier concerto, mais auparavant, un petit détour par du Gould en solo. Le 7e intermezzo de l'opus 76 de Johannes Brahms, joué là en 1960 par Glenn Gould au piano. C'est pas ce Brahms-là, ce disque-là que je voulais vous faire entendre aujourd'hui comme disque de légende, mais ce que Glenn Gould enregistrait 2 ans après, à cette date du 6 avril 1962. On était là à Carnegie Hall, c'était un concert d'abonnement en 71e saison du New York Philharmonic sous la direction de son directeur musical, Leonard Bernstein. Glenn Gould en 62 avait 29 ans, pas encore les 30. Il était déjà connu comme quelqu'un de très original et aux partis pris musicaux bien affirmés. Et là, justement, il avait imposé à Leonard Bernstein son Brahms à lui, celui qu'il voulait jouer ce soir-là, avec dans le premier concerto des tempi très lents, et une forme de sécheresse bien éloignée des épanchements romantiques qu'on met très souvent de ce répertoire. Du coup, Leonard Bernstein avait cru nécessaire de faire une déclaration avant de diriger ce premier concerto avec Glenn Gould à ses côtés. Cette déclaration, je vous la dis pas toute, elle durait 4 minutes, mais cette phrase, ces phrases qu'on pouvait en tirer. Je ne peux pas dire que je suis totalement d'accord avec la conception de Monsieur Gould. Et cela soulève une question, qu'est-ce que je fais devant vous? Eh bien, je dirige ce soir, parce que Monsieur Gould est un artiste qu'on doit prendre au sérieux. Tout ce qu'il conçoit, il le fait de bonne foi. Sa conception est suffisamment intéressante pour que je trouve nécessaire que vous l'entendiez. Et parce que nous avons tous à apprendre quelque chose de cet artiste extraordinaire, un artiste qui pense. Il était beaucoup critiqué, Bernstein, pour cette déclaration, comme si d'une certaine manière, il s'était mis à part, comme s'il avait dit, c'est pas ma conception, faites sans moi, je m'en lave un petit peu les mains. C'était pas ça. Il nous disait, Bernstein, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, il faut l'écouter quand même. Il faut aller voir ce qu'il a à nous dire, pourvu, bien sûr, que la conception soit forte et affirmée. C'était le cas avec Glenn Gould, bien évidemment. Quant au résultat, comme toujours, avec Gould, dont on peut ne pas aimer, vraiment, mais comme disait Bernstein, faut aller entendre au moins. Thank you. Et le public avait aimé. Enfin, pas tout le public, si on vous a mis tous les applaudissements. Il y a quelques huées qui traînent aussi, mais enfin, ce soir-là, il s'était manifestement passé quelque chose. C'était le rondo final du premier concerto pour piano de Brahms, Glenn Gould en soliste, le Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Nous étions là le 6 avril 1962, deux années avant que Glenn Gould se retire des scènes définitivement. Disque de légende, oui, concert de légende surtout, mais enfin, l'un peut entraîner l'autre, comme on sait. Et c'était à retrouver, bien sûr, sur francemusique.fr, rubrique disque de légende, sur notre page spéciale à podcaster tant que vous le voulez.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
De la très belle musique à suivre, dont les approches baroqueuses ont peut-être tendance à nous faire oublier parfois le potentiel en pathos qu'elles ont. Alors, faut aller vers des musiciens peut-être un peu plus à l'ancienne. Voici donc le Stabat Mater de Pergolèse, du pathos. Oui, Dieu sait qu'il y en a là-dedans. Surtout dans le duo qui referme cette œuvre, Margaret Marshall, Lucia Valentini Terrani, et c'est Claudio Abbado qui dirige l'Orchestre Symphonique de Londres.
Thank you.
Le duo qui referme le Stabat Mater de Pergolèse, Margaret Marshall, Lucia Valentini, Terrani, l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par Claudio Abbado. Ah, c'est chouette, la VOD. La VOD, vous savez, vous êtes chez vous et puis vous allez regarder à peu près n'importe quoi à la télé. Il y a des films qui passent, qui sont parfois très anciens, parfois beaucoup moins anciens. Hier soir, figurez-vous, je me suis posé devant Maloute. Qu'est-ce que c'est que Maloute? C'est un film du réalisateur Bruno Dumont. Vous le connaissez peut-être si vous avez regardé à la télévision Le Petit Quinquin. C'est lui qui a fait Le Petit Quinquin et puis tout un tas d'autres choses aussi. Je vais pas vous raconter Maloute, juste vous dire que c'est une sorte de mélange des genres complètement grotesque et pathétique. Il y a du burlesque dedans. Il y a de la tragédie. Il y a une histoire d'amour aussi, à la fois merveilleuse et banale et bête, et puis une sorte de recherche de la grâce, qui est manifestement celle du réalisateur. Mais en fait, tout ça est ridicule à achevé, il faut quand même vous dire les choses nettement telles qu'elles sont. Quand je regarde les films de Bruno Dumont, on rigole pas dans les films de Bruno Dumont, on glousse tout le temps. Et quand ma femme me regarde regarder ça, elle me dit « mais t'es complètement abruti, c'est complètement débile ce film, t'as vu les personnages, ils sont idiots, ils sont affreux, comment on peut regarder un truc pareil ?» Ben oui, mais la grâce, c'est ça, ça n'est pas du sublime, la grâce, ça n'est pas dans les champs élyséens, ça naît dans le caniveau ou dans un bout de mare en Bretagne, dans le Nord ou ailleurs. Bref, laissons sur Maloute, qui est un film superbe, sorti en 2016, je vous le rappelle, vous pouvez le regarder peut-être en VOD. Pourquoi je vous en parle? Eh ben, c'est parce qu'il y a de la musique dans Maloute, petit bout de musique d'une minute, deux minutes, qui revient tout le temps, dès qu'il y a une scène un petit peu forte, non pas pour la souligner, mais parfois justement pour créer une sorte de clash. Et cette musique, jusqu'à la fin, jusqu'au générique final, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu connais ça? T'as déjà entendu ça? Et à la fin, eh ben, regarde dans le générique, bien sûr, ça m'est revenu naturellement, c'est du Guillaume Lequeux, figurez-vous. Où est-ce que Bruno Dumont est allé sortir ça? Je n'en sais rien. Un extrait de Barberine, un opéra que Guillaume Lequeux voulait composer à l'âge de 20 ans. Il avait entendu Wagner à Bayreuth, on était devenu fou, très certainement Parsifal, parce que c'est ça qui résonne dans cette musique. Le père Franck lui avait dit, attends, t'es un peu jeune peut-être pour faire de l'opéra maintenant. Attends un peu, en plus il n'avait pas eu les droits de la pièce d'Alfred de Musset, je vous passe le détail. Toujours est-il qu'il reste de cette Barberine que ce prélude du deuxième acte très parsifalien et qui est donc la musique, la BO de Maloute. Ah ouais, ça c'est amusant quand même. Thank you. L'Orchestre philharmonique de Liège, dirigé par Pierre Bartholomé, dans cette ouverture du deuxième acte de l'opéra inachevé de Guillaume Lequeu. Il avait seulement 20 ans à l'époque. Barberine, qui sert donc à Bruno Dumont pour son film Maloute. L'un d'entre vous, un auditeur, Monsieur Lecomte, me fait un mail à l'instant et me rapporte une interview de Bruno Dumont qui racontait manifestement que mettre cette musique dans son film était, je cite, une manière de pousser l'hyper-romantisme de l'histoire d'amour en lui donnant un ornement démultiplié. Et ce qui permet aux spectateurs de vivre l'intensité de cette relation, oui, avec ce qu'on a autour comme image, c'est tout à fait surprenant, le clash encore une fois que ça forme. Enfin bon, bref, tout ça pour vous encourager à écouter et Guillaume Lequeu d'un côté et à voir Maloute de l'autre à l'occasion.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Thank you.
Décidément, cette petite pièce de Mario Castelnuovo Tedesco, elle était jouée ici par Léa Behringer au violon, Esther Behringer au piano. Vous aurez reconnu sans doute l'air de Figaro, Largo al factotum du Barbier de Séville, Figaro aussi, Figaro là, dans cette paraphrase de concert inspirée de cette cavatine. Mario Castelnuovo Tedesco, pianiste et compositeur fort intéressant, italien, mais qui dû immigrer aux États-Unis, connu en général pour sa musique de film, ses œuvres concertantes, et puis aussi pour la musique de guitare, puisqu'il se trouve que dans les années 30, il avait rencontré Andrés Segovia et composa pour lui énormément de très belles musiques. Ben, entre autres, on pouvait voir aussi qu'il était compositeur et paraphraseur, ce Mario Castelnuovo Tedesco, dans cette pièce-là. Il faut dire que Rossini a inspiré beaucoup de monde. On se souvient sans doute des Rossiniana de Torino Respighi. Mais si on va entendre Georges Ziffra, le pianiste qui adorait lui également paraphraser et improviser, eh bien, il le fait ici autour de la fameuse Danza. Thank you. C'est le virtuosissime Georges Xifra qu'on entendait ici en 1959 dans cette paraphrase sur la danza de Rossini, qu'il ne devait cette paraphrase qu'à lui-même. Vous allez me dire, c'est pas très bien de paraphraser les autres, hein. C'est se moquer d'eux-mêmes. Bah oui, mais c'est aussi leur rendre hommage. Et puis après tout, Rossini l'avait fait beaucoup également. On va l'entendre ici, enfin pas Rossini lui-même, mais Stefan Irmer au piano qui va nous jouer une miscellanée intitulée « Petit caprice » dans le style d'Offenbach. Oui, parce que pour Rossini, il y avait même un style Offenbach. Petit caprice dans le style d'Offenbach, c'était signé Gioachino Rossini, c'était joué ici au piano par Stefan Irmer. Vous allez me dire, qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup comme ça de côté de Rossini? Bah écoutez, d'abord c'est la fin de l'émission, ensuite c'est vendredi, donc la fin de la semaine, tout est permis, ou presque, et puis surtout il y a quelques concerts à venir, ah et ça, ça justifie autrement. Ainsi, demain, samedi, Lorient rossinien, c'est le titre général qui est donné à cette version de concert de l'Italienne à Alger, de Rossini bien sûr. Ce sera l'ensemble Matheus, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi, qui donneront cette Italienne demain donc au Théâtre des Champs-Élysées à partir de 19h30. Et puis dernière bonne raison d'évoquer Rossini, le Barbier de Séville, qui va être repris à l'Opéra de Paris à partir de demain également. Ce sera cette mise en scène qu'on a déjà vue à Genève il y a une dizaine d'années, et puis à Paris elle a été reprise plusieurs fois. Très belle mise en scène de Damiano Micheletto, qu'on est bien content de retrouver, je parle de la mise en scène bien sûr, à cette occasion avec une distribution Lisette Oropesa ou Florian Sempé, qui donne bien envie également. Bref, vous l'aurez compris, le week-end sera rossinien, peut-être les semaines à venir, ça nous mettra un peu de baume au cœur. On va refermer l'émission, pourquoi pas avec une ouverture, celle du Barbier de Séville justement, et j'ai choisi Riccardo Muti, qui sera la semaine prochaine à Paris d'ailleurs. Tiens, je lui consacrerai un petit bout d'émission lundi, parce que Riccardo mérite largement lui aussi son portrait. L'ouverture du Barbier avec l'Orchestre Philharmonia. L'ouverture du Barbier de Séville de Rossini, c'était l'orchestre Philharmonia dirigé par Riccardo Muti. Un grand merci à Flora Sternadel, Antoine Courtin et Alex Billa qui étaient avec moi aujourd'hui.
Hey, Napoléon, on dirait que c'est la fin.
Bah ouais, Lafayette, c'est la fin, mais pas de panique pour autant. Hein. On se retrouve lundi pour une semaine nouvelle de relax. Et puis, il y a le site internet pour écouter l'émission tant qu'on veut, jusqu'au bout de la nuit et même au-delà, bien sûr. D'ici là, bon week-end à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.